Bienvenue, chers auditeurs, sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Jean-François Héon sur la chaîne Les Voies de la Franchise. C'est le co-créateur de Double, une chaîne de distribution rapide, dite Elsi. Il va nous expliquer en quoi elle est Elsi, quelles sont les étapes de cette création de réseau qui a commencé à Marseille. Bonjour Jean-François.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de répondre avec pertinence à vos questions, essayer de donner quelques éclairages sur le concept que nous avons effectivement créé il y a bientôt 14 ans maintenant à Marseille.
Vous avez créé ça avec votre épouse, je crois.
Oui, absolument.
Sur une découverte américaine.
Oui, alors, si on remonte l'histoire, l'idée initiale, c'était de travailler sur ce qu'on appelle le régime crétois, le régime méditerranéen. Donc on avait réfléchi à un concept qui a existé du reste, qui s'appelait Namabar, Naples, Marseille, Barcelone. Et puis pour des raisons diverses, on a fait pivoter un peu, comme on dit dans le langage start-up, notre concept, en s'inspirant d'un concept américain qui s'appelle Jamba Juice, et qui était spécialisé, enfin qui est toujours spécialisé dans les jus de fruits, les smoothies, etc. On s'était dit, ça c'est formidable, il faut absolument qu'on fasse ça. Donc quand on a mis notre projet Namabar en stand-by, on s'est dit, on va faire un concept de bar à jus, etc. Bon. Et c'est assez vite rendu compte que, premièrement, Marseille et Los Angeles n'étaient pas tout à fait la même chose, et que les habitudes de vie et de consommation françaises n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles des Américains, qui passent leur journée avec un verre de quelque chose à la main.
Oui.
Donc, schématiquement, on s'est dit qu'on allait se planter si on ne faisait, surtout à l'endroit où on pensait s'installer, qui était un quartier de bureau, un quartier de tertiaire, on s'est dit, si on ne fait que des jus de fruits et des smoothies, on est fichu, ça va pas marcher. Donc on a réfléchi, on a gardé cette idée, parce qu'on était dès le départ axé sur l'idée du bien-être, de la santé, etc. Donc on a gardé cette idée des jus de fruits, et puis on a construit autour une offre food avec des sandwichs, des wraps, des salades, des soupes, etc. Avec effectivement un positionnement délibéré healthy ou bien-être pour tenter de donner une traduction au terme anglais.
Très bien. Vous avez aujourd'hui une trentaine de restaurants, c'est ça?
Oui, un petit peu plus. Il y en a, au moment où nous parlons, il y en a 36 en exploitation.
D'accord.
On ouvre le 37e mardi prochain à Orléans. Et puis, on a beaucoup de choses dans nos cartons. On en a deux en pré-ouverture à Nantes. On en a déjà deux, d'ailleurs, à Nantes. On en a deux à Bordeaux. On en a un à Marseille, un dans la région d'Aix. Enfin,
vous n'avez pas encore passé la Loire? Si, avec Nantes un petit peu.
Si, oui, voilà, avec Nantes,
Et à Paris, vous en avez un
à
aussi?
À Paris, on en a un. C'est en principe, si tout se passe bien, on devrait avoir atteint le chiffre un peu symbolique des 50 points de vente le 30 juin 2020.
D'accord.
Compte tenu de ce qui est engrangé, ce qui est en cours. Alors, dans certains cas, les travaux ont déjà commencé. C'est le cas à Nantes, par exemple. Dans d'autres cas, on finalise la négociation d'un bail. Et puis encore, à Lyon notamment, où on a du mal à trouver des locaux, on est encore en recherche des locaux. Mais bon, on a des franchisés qui sont dans les starting blocks, prêts à démarrer avec nous.
Il y a beaucoup de multi-franchisés ou ce sont des nouveaux qui ont été séduits par le concept?
Oui, on a un gros multi-franchisé, puisque l'année dernière on a signé un accord de multi-franchise avec un monsieur qui nous a réservé les villes de Nancy, Metz, Strasbourg et Reims.
Ah oui.
Avec la perspective sur un délai de 5 ans d'ouvrir 10 points de vente. On a fait la même chose avec une famille toulousaine qui ont réservé toute la ville de Toulouse avec là aussi un schéma d'ouverture sur 5 années de 8 points de vente. On a signé un accord avec un couple pour Lyon qui doivent ouvrir 3 points de vente. Et puis à Marseille, on a un monsieur qui est un peu un franchisé historique qui a 4 restaurants de Beul à Marseille, une jeune franchisée très dynamique qui vient d'ouvrir le deuxième, enfin de reprendre le deuxième. Ouais, on a pas mal de multi-franchisés finalement.
D'accord. Et le Double, en fait, c'est plutôt des petites surfaces, un petit concept de à emporter où on
au
mange
début,
sur place.
Au début, oui, puisque bon, lorsqu'on s'est lancé dans ce projet, on savait pas trop si notre aventure, notre histoire de jus de fruits, restauration L6 allait marcher. Donc on a pris un petit local de 20 mètres carrés, donc à Marseille, dans un secteur de bureaux. Donc qui ne fonctionnait qu'en vente à emporter. C'était un petit peu une sorte de test pour savoir si le concept allait prendre, etc. Et ça a très très bien marché. Donc ce qui fait que les suivants, on est passé sur des surfaces déjà un petit peu plus importantes. Donc après on était sur 50-60 mètres carrés. Maintenant on considère et on juge que c'est trop petit. Donc on ne recherche quasiment plus de locaux sur une surface d'une surface inférieure à 100 mètres carrés.
D'accord.
Après, j'enfonce une porte ouverte, mais en matière de restauration, évidemment, il est fondamental et crucial de trouver un bon emplacement.
Oui.
Autrement dit, si l'emplacement rêvé à Lyon ou à Nantes ou à Bordeaux fait 85 mètres carrés, on va le regarder.
D'accord, très
et
bien.
Et on a aussi des surfaces au-delà de 150 mètres carrés. Il y en a deux ou trois points de vente.
Ah oui, d'accord.
Qui dépassent les 150 mètres carrés.
Alors, quand on regarde votre profil LinkedIn, vous êtes très transparent sur l'histoire de Double.
Ouais.
Et vous parlez à un moment d'une difficulté que Double a rencontrée. Vous utilisez même un terme assez fort, puisque vous parlez de turbulence.
Ah oui, oui.
Les voies de la franchise, c'est aussi un peu pour apprendre, un peu pour être... moi, si j'ai envie de créer un réseau, j'écoute les voix de la franchise pour en savoir un peu plus.
Je vais vous dire ce qu'il faut pas faire.
Et donc, c'est
ce qu'il faut faire.
Si vous acceptez effectivement d'échanger un peu sur ces turbulences, puisqu'on vient de parler maintenant de Double d'aujourd'hui qui est en croissance et qui s'en sort très bien. Donc, pourquoi ces turbulences et comment on pourrait les éviter si j'étais un créateur de réseau?
Alors bon, j'ai pas de difficulté à parler de ça. Ça fait partie de la vie d'un réseau. Simplement, à l'époque, notre avocat nous a dit bon, chez vous, c'est beaucoup à la fois et un peu tôt dans la vie du réseau. Bon, en fait, on a créé donc Double en février 2006 et entre 2006 et 2009, on a ouvert 5 restaurants successivement en propre. Et puis à partir de 2010, on a commencé un développement en franchise. Au 1er janvier 2013, j'espère que je suis à peu près clair, il y avait 15 Double, il y en avait 13 en franchise et nous en restait 2 en propre. Les autres, on les avait cédés à des franchisés. Bon, ça se passait pas trop mal. On était assez contents. Il y avait quelques difficultés par-ci par-là, mais enfin, ça me paraît relativement normal. Et puis, en février 2013, et entre février 2013 et septembre ou octobre 2013, on a reçu successivement 6 assignations au tribunal de commerce émanant de 6 ex-franchisés qui s'étaient évidemment concertés pour essayer d'obtenir du tribunal de commerce l'annulité et l'annulation du contrat de franchise. Et évidemment, le versement d'indemnités de conséquences. Il s'en est suivi une période finalement assez longue et assez difficile, 2013 à 2015 globalement, pendant laquelle on a mis un coup d'arrêt évidemment au développement et on a passé l'essentiel de notre temps à défendre nos droits et à fournir à notre avocat les arguments permettant d'essayer de se dépêtrer de cette affaire. Et puis progressivement les franchisés qui nous ont attaqués ont été déboutés, ont été condamnés, et sur les 6, on a gagné et mis fin à 5 procès. Le 6e n'est pas allé au bout de sa procédure, il a préféré s'arrêter avant. Donc c'est derrière nous, ça a été compliqué, c'est derrière nous, ça a été compliqué aussi parce que si on avait 15 Double au 1er janvier 2013, il n'y en avait plus que 6 ou 7 oui. En octobre 2015. Donc
vous reveniez à la situation des
voilà,
succursales uniquement, pratiquement, quasiment.
Donc ça occasionne évidemment des... des moments difficiles, c'est pas très bon pour le moral, tout ça.
Tout à fait, oui.
En plus, quand vous lisez, je rentre pas trop dans le détail, mais ce type d'assignation, à la fin de l'assignation, vous avez littéralement l'impression que vous êtes un escroc. En réalité, notre bonne foi a été reconnue par les tribunaux, y compris en appel d'ailleurs dans certains cas, mais ça a été difficile. Et puis c'est reparti. Alors en 2016, on a ouvert 4 ou 5 doubles supplémentaires, donc c'est reparti doucement. Et puis en 2017, on est revenu au salon de la franchise à Paris, ici à Franchise Expo, et on a ouvert, je crois, en 2017, 8 doubles. On a dû en ouvrir à peu près autant en 2018, et cette année, on devrait en ouvrir une douzaine à peu près. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous en avez appris?
C'est derrière nous. J'en ai appris que on a un devoir d'extrême transparence vis-à-vis des franchisés, donc on doit tout dire, y compris d'ailleurs aux candidats qui se présentent aujourd'hui. Moi, je mets un point d'honneur à leur parler de ça, en disant que bon, voilà, ça fait partie de la vie du réseau, c'est derrière nous. Donc, faut être extrêmement transparent. Mais si je devais conseiller un futur franchiseur, je lui dirais d'abord d'appliquer la célèbre maxime parfois attribuée à César, si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est un peu surprenant, mais il faut en avoir conscience. La deuxième recommandation.
Donc ça passe par des contrats.
La deuxième recommandation que je donnerais à un futur franchiseur, c'est prenez un avocat, un spécialiste de la franchise. Il y en a, on en a un, nous. Il y en a plusieurs à Paris. C'est indispensable pour effectivement vérifier l'ensemble des documents qui accompagnent la création d'un réseau de franchise. Le manuel opératoire, ce qu'on appelle le DIP, document d'information pré-contrat. Actuel, enfin, je rentre pas trop dans le détail, le contrat, bien entendu, il faut un avocat qui verrouille tout ça, etc. Parce que le système de la franchise est extrêmement vertueux parce que ça permet de se développer très rapidement dans la mesure où, évidemment, ce sont les franchisés qui investissent.
Oui.
Bon. Mais il y a un revers à cette médaille, c'est qu'à partir du moment où on leur a vendu un concept, un savoir-faire, etc., etc., dès que ça marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, c'est notre faute.
Oui.
Nous sommes le bouc émissaire parfait et le bouc émissaire idéal. Alors, je dis pas qu'on fait pas d'erreur, mais globalement, c'est toujours notre faute. Si ça marche bien, c'est parce que le franchisé est super bon. Si ça marche pas bien, parce que le franchiseur est mauvais. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Après, je pense que quand on dit les choses, quand on dit la vérité, quand on affronte les problèmes, quand on se préoccupe de la réussite des franchisés, ça se passe bien, ça se passe normalement.
Et alors, au quotidien, chez Double, comment on se préoccupe de la réussite des franchisés, par exemple?
Alors, bon, on est une petite structure, hein. Nous co-dirigeons l'entreprise, mon épouse et moi, chacun se répartissant la tâche en fonction de ses compétences ou de ses affinités. Autrement dit, mon épouse s'occupe de toute la partie conception de la carte, de l'offre. Elle s'occupe aussi, ça surprend parfois les gens, du suivi des travaux. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais elle, ça la passionne beaucoup. Et puis, elle s'occupe de l'animation réseau. Moi, je m'occupe plus de la partie développement. Donc le recrutement des nouveaux franchisés, de la stratégie et puis des achats. Donc la partie animation réseau, c'est un point clé d'un réseau de franchise. Elle est aujourd'hui assurée par 2 animatrices réseau, c'est simplement une au sud et une au nord. Ce sont elles qui sentent le pouls des franchisés. Hein. Elles sont de jeunes femmes de terrain, donc elles sont très régulièrement en contact permanent avec les franchisés et très régulièrement dans les points de vente. Elles ont un double rôle, celui de s'assurer sur le terrain que le concept de Bull est parfaitement respecté. Ça, c'est indispensable. Donc c'est une sorte de rôle de contrôle, mais ça devrait être qu'une toute petite partie de leur rôle, dans la mesure où, en toute logique, les franchisés devraient respecter un concept qu'ils ont payé. L'autre partie devant être, effectivement, l'animation, l'accompagnement, donc en fonction des préoccupations des uns et des autres, elles vont avoir à intervenir plus sur des questions de développement du chiffre d'affaires, plus sur des questions de gestion, ou sur des questions d'organisation. C'est un point qu'on n'a pas abordé. Chez nous, il y a beaucoup de travail. Tout est fait maison, tout est fait sur place, dans chaque point de vente, avec des produits frais. Donc, il y a beaucoup de boulot. On a une carte assez large. Pourquoi ? En partie parce que notre clientèle est constituée d'une clientèle de bureaux, de secteurs, enfin d'actifs.
Oui, vous n'êtes ouvert que le midi d'ailleurs.
On est ouvert que le midi, on est ouvert que du lundi au vendredi, sauf c'est une ça. Ou deux exceptions.
Ouais.
Mais le modèle actuel, en tout cas, c'est 5 jours sur 7, midi. Donc, on est susceptible de recevoir des clients plusieurs fois par semaine.
Oui.
Donc, on a une carte relativement large parce qu'il faut que ces clients qui sont fidèles, qui viennent 2, 3, quelquefois 4 fois par semaine, je sais pas pourquoi, comment ils font, mais...
Ben c'est parce qu'ils trouvent ça très bon.
Bien certainement, hein, certainement. Pour éviter qu'ils ne se lassent, ben, on a pensé qu'il fallait qu'on ait une offre assez large. Donc, tout ceci pour dire que c'est beaucoup de boulot, c'est de la vraie restauration, c'est pas du bricolage. Donc, il faut savoir s'organiser. Donc,
oui.
Des animatrices réseau sont là pour ça. Elles sont là vraiment pour aider un franchisé à s'organiser. Parce que bon, c'est aussi un sujet qu'on abordera peut-être plus en détail, mais les franchisés ne sont pas tous, loin s'en faut, issus du monde de la restauration. Hein. On en a certains. Certaines sont des jeunes femmes. En général, certaines sont d'anciennes managers de Bull, de l'époque où elles étaient managers de nos propres restaurants.
D'accord.
Qui ont franchi le pas,
oui.
Qui à un moment nous ont dit « Bon, j'en ai un peu assez d'être salarié chez vous, je voudrais devenir franchisé. » Ça, c'est super.
Et salarié d'abord entrepreneur.
Parce qu'elles connaissent parfaitement le concept, et puis c'est un signe de confiance.
Oui,
quelqu'un qui
sûr.
Dit « Bon, je vais mettre mon argent dans un concept pour lequel j'ai travaillé », on peut penser qu'a priori, elles ont confiance. Dans le projet question. Donc on a certains ou certaines franchisées qui sont d'anciennes managers, on en a d'autres qui viennent du monde de l'extension, mais on a plein d'autres qui viennent d'autres univers, de la téléphonie mobile, de la grande distribution, de la finance, du monde médical. On a une franchisée très dynamique qui était une ancienne visiteuse médicale. Notre multi-franchisé de l'Est a été directeur commercial dans l'industrie pharmaceutique. Enfin bon, c'est très varié. Alors à l'évidence, d'anciennes managers ou des franchisés issus de la restauration sont très vite et assez facilement opérationnels. Les autres, il faut les accompagner, il faut les aider à s'organiser. Et ça, c'est le rôle notamment des animatrices réseau. Donc pour savoir si les franchisés sont contents, parce que c'est ça notre question permanente, hein.
Ouais.
Est-ce qu'ils sont contents?
Votre boussole.
Est-ce qu'ils sont contents? on a les remontées du terrain. Puis bon, on est encore petits, hein.
Ouais.
On les connaît tous, hein. Moi, les franchisés, c'est tous, pratiquement tous, avec moi, qu'ils ont entamé les premières démarches. Les tout premiers, on est très proches d'eux, parce que, à l'époque, ils sont à Marseille, à l'époque, on était à Marseille. Donc, il y a une grande proximité, qui fait qu'en principe, on est à peu près au courant de savoir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, et puis il faut réagir.
Bah oui.
Voilà.
Et dans un magasin de Bull, un restaurant de Bull, il faut combien de personnes pour que ça tourne?
Le schéma de base, c'est le ou la franchisé, parce qu'il y a plus de femmes franchisées que d'hommes, on est mieux que la parité, plus deux équipiers ou équipières à temps complet. Bon, après, quand les chiffres d'affaires commencent à passer 350, 360 000 euros, voire 400 000 euros, il faut envisager l'ajout d'un mi-temps ou d'une mi-temps complémentaire.
Oui.
Donc, ce sont des petites équipes, des petites structures. Alors après, ceux qui sont multi-franchisés, évidemment, ils peuvent, quand ils ont, comme notre ami François-Xavier à Marseille, 4 restaurants, ils peuvent évidemment pas être présents dans
bien
les
sûr.
4. Donc, ils ont recruté à chaque fois des managers. Et puis, leur rôle change un peu. Ils animent leurs équipes. Bon, ils ont la capacité de remplacer leur manager pendant les vacances, etc. Mais ils sont plus dans l'animation de leur mini-réseau.
Voilà, c'est ça. Vous avez donc un positionnement d'offre qui est très marqué healthy,
ouais.
C'est vraiment ça, donc santé pour ceux qui sont attachés à la langue française. Ça passe par une offre végétarienne, végane, forcément avec aussi de temps en temps de la viande, pas de viande. Comment on positionne une offre santé? Ça veut dire quoi en fait une offre santé?
Au début de Double, on avait utilisé un slogan qui disait « Je me fais du bien ». Et On l'a abandonné parce que nos jeunes collaboratrices se sont plaintes que certains clients leur faisaient des remarques déplacées, tendancieuses, etc. Donc on a abandonné « Je me fais du bien », mais à regret, parce que ça traduisait parfaitement notre offre, enfin notre proposition de valeur. Autrement dit, permettre aux consommateurs qui souhaitent prendre soin de leur santé en mangeant des choses légères, bonnes pour leur santé, etc., et en même temps leur autoriser le plaisir d'un gâteau maison ou d'un dessert un peu régressif. Là, on a quelques spécialités, un banoffee revisité, un dessert à la fraise qui sont des grands succès. Donc on a voulu combiner le « je me fais du bien en mangeant sainement », mais en me faisant du bien aussi par un petit plaisir gustatif, un gâteau, etc., etc. Au-delà de ça, l'offre est construite autour de produits frais, je l'ai évoqué tout à l'heure, uniquement, donc tous les légumes sont frais, toutes les viandes, il n'y a pas de congélateur, c'est dommage. L'offre est construite autour de produits qui sont réputés bons pour la santé, les céréales, les fruits et légumes, bien entendu, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les superfoods, le curcuma, la grenade, l'avocat, la spiruline, etc., etc. Les recettes sont des recettes légères, il n'y a pas de mayonnaise chez Debon, évidemment pas de friture, etc. En règle générale, les salades ne sont pas assaisonnées. C'est le client qui lui-même choisit sa sauce. Il y a des vinaigrettes, huile d'olive citron, etc., etc. Il choisit et il dose en fonction de son goût. Voilà, en gros, ce qui caractérise l'offre avec, et je reviens sur ce que vous disiez, une proportion de plus en plus importante de produits végétariens, enfin de plats végétariens. Quelques plats véganes et puis aussi quelques propositions sans gluten. Pourquoi ? Parce que il y a une tendance évidemment relativement importante de consommation vers ce type de recettes, sauf que c'est encore une minorité de la population. Et on pense que construire une offre 100% végétarienne, végane, etc., ce serait fragiliser un modèle économique, notamment dans des villes de province comme même grandes, comme Nantes, Bordeaux, je suis pas absolument sûr qu'on aurait une clientèle suffisamment large tous les midis pour fonctionner à 100% végétarien. C'est pourquoi on est resté flexitarien, c'est-à-dire que on permet à ceux qui veulent quand même de temps en temps déguster des protéines, du poisson, du poulet, de la viande, etc., de le faire.
D'accord. Donc vous rentrez complètement dans cette tendance de ces générations Y, X et puis peut-être W ou je ne sais ce que comment on les appellera après, qui ont une sensibilité à l'environnement peut-être plus forte, au développement. Quelles sont leurs demandes sur comment, je sais pas comment ils communiquent avec vous, sur les réseaux sociaux, sur vos avis, qu'est-ce qu'ils demandent eux, comment, en quelle image ils vous renvoient, est-ce qu'ils vous font part de leurs demandes spécifiques?
Je crois que la plus forte demande par rapport à une entreprise comme la nôtre, un concept comme le nôtre, c'est l'environnement, le développement durable, la prise de conscience écologique. Ça, je crois que c'est ce qu'ils attendent le plus. Parce que les fameux millennials, la génération Y, sont un peu contradictoires. Par moment, ils veulent manger sainement, mais ils aiment bien les burgers, les frites, les tacos, etc.
Ils sont flexitariens aussi.
Ils sont très flexitariens, absolument. Sauf quelques-uns qui sont devenus effectivement végétariens, etc. Vegan, c'est très minoritaire hein, aujourd'hui encore. Il y en a, mais c'est très minoritaire. Donc, je crois qu'une entreprise qui ne prendrait pas conscience ou qui ne répondrait pas aux préoccupations de développement durable aujourd'hui, elle serait rejetée par notamment la génération Y et celle qui vient derrière, la génération Z. Je crois que c'est ce qu'ils attendent le plus de nous. Après, effectivement, on a des jeunes dans nos clients qui font attention à ce qu'ils mangent, parce qu'ils sont sportifs, parce que etc., etc. Mais bon, je dirais que c'est plus sur la question du développement durable qu'il faut répondre à leurs attentes aujourd'hui. Alors on y travaille.
J'ai lu que vous alliez ouvrir un flagship, oui. peut-être sur la région parisienne, oui. Sous forme d'un espace peut-être plus grand et avec un centre de formation. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, en principe, on doit signer le bail le 22, je crois, pour un local grand, 240 mètres carrés, en très proche banlieue parisienne. Comme je suis un peu superstitieux, je vous dis pas où, tant que j'ai pas signé le bail.
Alors
l'idée c'est à la fois un showroom, autrement dit une vitrine du savoir-faire de Bull, ce qui nous permettra notamment quand on sera de nouveau au salon de la franchise au mois de mars, de dire à nos visiteurs, bah tenez, allez donc vous allez voir ce qu'est un double, vous allez voir les couleurs, vous allez voir le graphisme, vous allez voir l'ambiance, parce que demain, si vous êtes franchisé, vous êtes obligé de faire tout ça, vous pourrez rien changer. Et puis allez déguster les produits, voyez si ça vous plaît, etc. etc. Donc, showroom, centre de formation... Pour qui, essentiellement pour nos franchisés, enfin nos nouveaux franchisés, parce qu'on va les accueillir en règle générale 2 semaines complètes dans ce restaurant-là, pour leur apprendre, comme on l'évoquait tout à l'heure, à s'organiser, oui. en particulier pour ceux qui viennent de mondes complètement extérieurs à la restauration, et puis on va leur donner un certain nombre de points de repère en matière de gestion, de commercial, enfin on va leur essayer de leur apprendre en 2 semaines comment faire fonctionner un restaurant double, et ce restaurant pilote sera à cet égard également centre de formation. Et puis sa troisième vocation, c'est d'être un peu pompeusement, une sorte de laboratoire de recherche et développement. Alors, faut rien exagérer, on construit pas des fusées. Néanmoins, ce sera le moyen pour mon épouse de tester des recettes. Alors, je fais beaucoup ça dans notre cuisine, donc oui. ce sera quand même, on sera plus à l'aise. Oui. Puis tester de nouvelles idées avant de pouvoir les diffuser auprès de franchisés. Alors, ça concerne l'aspect l'assiette proprement dite, mais ça concerne aussi, par exemple, la fidélité. On est en train de tester des systèmes de fidélité, et on ne préconise rien à nos franchisés si on ne l'a pas testé avant. Parce que sinon, de toute façon,
bah oui.
si ça se passe pas bien, ce sera automatiquement de notre responsabilité. Donc voilà, c'est ça l'idée. Showroom, flagship, showroom, vitrine, et du savoir-faire, centre de formation et laboratoire de recherche et développement.
Et dans cet esprit de laboratoire recherche et développement, est-ce que des rapprochements avec des cuisiniers un peu spécialisés dans les légumes, un partenariat avec Passard par exemple qui a fait aujourd'hui
ce serait formidable mais je crains que ça ne soit pas tout à fait dans mes moyens. Et alors mon épouse est un peu rigide sur ce plan là au sens où, mais elle a une théorie qui est assez recevable. Elle considère qu'il faut qu'une offre ce soit l'idée d'une personne et qu'il faut pas trop se disperser, faut pas trop écouter tout le monde, parce que sinon ça devient un peu touffu. Donc elle est assez seule finalement dans la conception de la carte. Bon, ça veut pas dire que dans un futur on n'aura pas effectivement l'idée ou l'intérêt de travailler en collaboration ou avec un chef ou plus étroitement avec une diététicienne, oui. par exemple.
Bon. Mais peut-être que c'est elle qui deviendra le futur Passard.
Ça, je sais pas. Vous savez, on fait pas de la cuisine à proprement parler. Ce sont des choses simples, encore une fois, parce que il faut que ce soit accessible à des gens qui n'ont jamais fait de restauration. Donc, on a clairement défini une offre, des recettes qui sont réalisables, y compris par moi, c'est-à-dire par vraiment tout le monde. Quoi. Donc, c'est simple. On n'a pas, il est absolument pas nécessaire d'avoir un CAP de cuisine, etc., etc. Il suffit de suivre les recettes.
Oui, oui.
Donc, faut les suivre, mais il suffit de suivre les recettes, et puis après, bah, on arrive à construire quelque chose qui, semble-t-il, donne satisfaction à beaucoup de clients.
Ah bah oui, je pense, vu le développement du réseau. Alors, on va arriver à la période d'hiver. Oui. On nous annonce même cette semaine un froid, oui, un froid de janvier. Donc, on va tous se jeter sur la soupe, et c'est un plat important chez vous. oui. que vous allez mettre en avant aussi à partir du mois de février, grâce à un engagement avec l'association Restaurants Sans Frontières,
ouais.
Qui agit en fait pour donner à manger, construire des restaurants à ouais. travers le monde.
Absolument, c'est ça dans des pays un petit peu en développement, notamment en Asie, je crois. Oui, bon, la soupe, c'est un best-seller de Bol depuis le début. Alors, je précise que toutes les soupes sont faites maison, sur place, avec des légumes frais uniquement, etc., etc. Alors, on a cherché la période du mois de février, notamment, c'est une période très creuse. Il fait froid, il y a des vacances, hein, c'est mauvais. Donc, on s'est dit, c'est peut-être le bon moment de soutenir un petit peu la fréquentation des restaurants en mettant en place une opération promotionnelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faisons de la soupe. On est bon en soupe. Les gens aiment la soupe. C'est en hiver, etc. Donc, on a décidé qu'on allait faire le mois de la soupe. Et puis, au-delà de l'idée du mois de la soupe, parce que ça, c'est pas très compliqué, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut en rajouter, qu'est-ce que pouvons-nous rajouter à ça pour stimuler encore un petit peu mieux les ventes, la fréquentation? Donc, une offre promotionnelle. Alors, plutôt que de faire la soupe est à 1 euro ou si vous achetez une soupe vous avez une deuxième gratuite ou que sais-je encore, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. On va reverser 1 euro par soupe vendue à une organisation caritative. On a contacté une ou deux et puis là-dessus notre ami Paul Fedel qui est le rédacteur en chef de la revue France Snacking nous a contacté, c'est le hasard en fait, en nous demandant si on voulait participer à une opération qui consiste à demander aux clients s'ils sont d'accord pour arrondir leur addition et reverser la différence à la fameuse association. Nous on est tout à fait d'accord et on est d'autant plus d'accord qu'on est en train de chercher un partenaire pour notre opération soupe. Donc on s'est rapproché de la fameuse association et on va lui reverser 1 euro par soupe vendue pendant tout le mois de février.
Super. Donc
alors c'est un peu le hasard. Après je connaissais un peu, j'avais entendu parler de cette association, pardon. Et puis bon, c'est sympa parce que c'est relié à la restauration.
Oui, bien sûr. On a beaucoup couvert le projet Double, on a beaucoup parlé de son développement qui va continuer et on va bientôt pouvoir tester Double en grand format ouais. sur la région parisienne. On a hâte d'aller voir ça. Et vous, Jean-François, est-ce que je peux vous poser une question un peu plus personnelle? Sur est-ce que vous avez un rituel, quelque chose que vous faites quand vous doutez?
Je vous dirais bien que je doute jamais, mais vous me croirez pas. On n'a pas vraiment des doutes, mais on se pose des questions. On s'en revient peut-être un peu au même. Les deux questions un peu lancinantes et leitmotiv, c'est est-ce que notre offre colle au marché? Est-ce qu'elle est pertinente? Tous les jours, on se demande ça. Est-ce qu'on est bon dans ce qu'on fait? Et l'autre question lancinante, c'est est-ce que nos franchisés sont contents? Ça, c'est un doute quasi quotidien. Alors, comment on vit avec ça? On travaille à deux, oui. Mon épouse et moi. Alors il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Nous on trouve ça très bien parce que encore une fois on a des compétences différentes, des affinités différentes sur certains sujets et une grande complémentarité. Donc j'ai envie de dire que le moyen d'apaiser ou de lever ou de parler des doutes, bah c'est de se parler réciproquement et finalement de trouver la solution à deux.
Bah c'est bien si ça fonctionne.
Ça déjà, fonctionne.
Ça apprend à se parler.
Oh, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais bon, globalement, on finit toujours par trouver la solution, en fait.
Et vos clients, en fait, eux ont un moyen de vous faire remonter de l'information et vous utilisez.
Non seulement ils ont un moyen, mais on sollicite l'information. Oui. Moi, je suis très attaché depuis toujours à avoir des retours clients. Je pense que c'est extrêmement important, y compris les mauvais d'ailleurs. Alors bon, aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur les avis Google.
Oui. Hein,
donc tous les restaurants ont un compte professionnel Google et sur lequel les clients mettent des avis. On n'oblige rien du tout. D'ailleurs, on incite nos franchisés à répondre aux avis. Certains le font très bien, d'autres le font systématiquement pas. Ils ont tort, mais on peut pas les obliger à le faire. Et nous, on scrute ça. Alors, on a un petit journal interne.
J'ai posté un petit post là-dessus, hein, sur l'impact de la réponse la vie sur la fréquentation du magasin et sur la fidélité.
C'est
donc
évident.
Vous pouvez leur montrer,
oui, absolument.
Vous donnerez les éléments, c'est très instructif.
Avec grand plaisir, parce que tous nos franchisés n'ont pas encore compris ça. Bon, après, il faut toujours un peu de temps, etc. Certains l'ont très bien compris, et d'ailleurs, ça se traduit tout de suite dans le nombre de commentaires qu'ils ont, qui est en hausse systématique. D'autres sont un peu plus réticents, mais bon, ils y viendront. Donc, nous, on scrute ça de très près, et on a un petit journal interne qui s'appelle Double Link, qui est un newsletter qu'on envoie à nos franchisés tous les 10 du mois, qui donne des nouvelles du réseau, etc. Et on a le palmarès des avis, ou le top 5 des meilleurs, ceux qui ont les meilleures notes, etc., etc.
D'accord.
Bon, on a fait en 2018 et en 2019 des vagues de visites mystères. Alors ouais, ça ne remonte pas véritablement l'avis de nos consommateurs, mais le visiteur mystère se drape dans les habits d'un consommateur. Donc ça, c'était aussi un bon moyen d'avoir un baromètre, une vision un peu large du service, puisque les visites mystères traitent exclusivement du service, oui, dans nos restaurants. Et puis, on est en train de mettre en place un système qui nous permette de mesurer ce qu'on appelle le Net Promoter Score,
oui,
ce qui consiste à répondre à la question décisive suivante: sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez ce restaurant à vos amis, à votre entourage? Sachant que de 1 à 6, on est un détracteur, 9 et 10, on est un promoteur, et à l'intérieur, on est neutre. L'idée consistant à faire la différence entre promoteur et détracteur et à déterminer le fameux Net Promoter Score.
Donc, et de voir son évolution.
C'est important de voir son évolution. On a mis un outil de mesure sur le site internet, mais il est peu utilisé parce qu'il est peu visible. Donc on est en train de travailler à quelque chose qui nous permette d'avoir beaucoup plus de réponses et d'avoir une mesure du NPS de chaque restaurant et de l'enseigne Double tout entière. Je crois beaucoup à ça, moi.
Oui, je crois que c'est effectivement important d'écouter, de mesurer,
voilà,
et de
Sinon, on n'a pas complètement renoncé aux bonnes vieilles traditionnelles command card qu'on met dans les restaurants avec êtes-vous satisfait, pas satisfait, très satisfait de l'accueil, du service, etc. Mais les gens utilisent plus trop ça à l'ère d'Internet, des smartphones, etc. Les gens utilisent plus beaucoup la bonne vieille command card papier.
Oui, non, c'est vrai que aujourd'hui, effectivement, il y a des outils sur le digital mobile qui...
Après, bon, on a une page Facebook, on a une page Instagram, on a évidemment un site internet, donc tous ces instruments-là nous permettent aussi de recueillir des avis, commentaires, remarques, engueulades, etc.
Et oui, la vie avec les clients est une belle vie. Bah, écoutez, Jean-François, je vous remercie beaucoup pour cet échange qui a été coloré par votre accent. Et c'est très, très agréable. Merci.
Enfin, moi, je suis né à Suresnes, mais il semblerait que j'ai gardé un point d'accent marseillais.
Marseille a marqué un petit peu votre accent.
Okay.
Merci beaucoup.
Et
puis, longue vie et beau développement à Double.
Ouais, merci. Ça devrait bien se passer. Merci.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.